بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. Donc les jeunes entre la raison et la tentation, les tentations. Vous savez tous que Dieu exalté soit-il nous a créé et nous a bien créé. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nous sommes la meilleure des créatures. Nous sommes parmi toutes les créatures que Dieu a créées dans cet univers, celui qui a été créé de manière parfaite. Il nous a créés avec plusieurs dimensions. Une physique, le corps, que vous connaissez tous. Une dimension spirituelle, ruh, l'âme. Et une troisième dimension, c'est le nafs. C'est-à-dire là où se trouvent les sentiments, hein, les envies, les tentations. Donc le cœur, on sait ce que c'est. Ouais, il faut le nourrir, il faut lui donner à boire et à manger, il faut le reposer, etc. Il faut prendre soin de lui, sinon il va tomber malade. L'âme, ruh, même chose, il faut la nourrir, il faut prendre soin d'elle, sinon elle va tomber malade. La nourriture de l'âme vient du ciel parce que l'âme elle-même vient du ciel. La nourriture du corps vient de la terre parce que le corps lui-même vient de la terre. Ainsi, notre corps a besoin de fer, de phosphate, de magnésium, de potassium, de calcium, etc. Quant à l'âme, sa nourriture, c'est quoi? C'est la foi. Le rappel, l'évocation. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Ce qui apaise l'âme, c'est le contact qu'elle a avec Dieu. Et la troisième dimension, donc le nefs, là où se trouvent les sentiments, les passions, les envies, il faut aussi prendre soin de cette dimension. Il faut en prendre soin parce que le nefs peut tomber malade. Dieu dans le Coran dit « Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha » auront réussi ceux qui arriveront à purifier leur nefs, perdu ceux qui l'auront délaissé et qui l'auront laissé traîner dans la boue. Donc l'être humain doit durant toute sa vie faire un effort. Il doit être courageux, il doit travailler, il doit se sacrifier. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Dieu nous a créés et on doit suer. Il n'y a rien de gratuit. Pour prendre soin de son corps, il faut faire des efforts. Pour prendre soin de son âme, il faut faire des efforts. Pour prendre soin de son œuvre, il faut faire des efforts. Il faut faire ce qu'on appelle des sacrifices. N'est-ce pas? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Le paradis est entouré des choses qui sont difficiles à faire, qu'on n'aime pas, on rechigne, on a du mal à les faire. » C'est-à-dire, il faut faire des efforts et des sacrifices pour pouvoir entrer au paradis. Quant à l'enfer, il est entouré des choses que le nefs aime bien, et puis on y trouve du plaisir, mais vous savez très bien comment ça se termine. Ça se termine avec l'enfer. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit que le paradis est cher, hein, c'est pas gratuit. L'entrée au paradis, il faut acheter le billet et le billet coûte très cher. Ala inna sil'atallahi ghaliya, la marchandise de Dieu est chère. La marchandise de Dieu, c'est le paradis. Donc, il faut un prix pour entrer au paradis sur terre et dans l'au-delà, puisque notre religion nous demande de faire tout pour que nous soyons heureux sur terre. La nuhiyannahu hayatan tayyibatan. Et un des objectifs majeurs de cette religion, c'est que l'homme et la femme, donc l'homme avec un grand H, vivent sur terre une hayat tayyiba, c'est-à-dire une vie de bonheur et de bien-être, pour connaître le bonheur et le bien-être ultime au paradis, avec les jouissances sans limite qui n'ont plus d'effet négatif sur notre corps, notre âme et notre nefs, et la jouissance des jouissances au paradis, wa ridwanullahi akbar. C'est que Dieu soit satisfait de nous et la rencontre avec notre Seigneur. C'est clair tout ça? Ok? Sont peut-être des portes ouvertes que je viens d'enfoncer, mais il est bien de remettre les choses à leur place. Très bien. Donc, l'être humain est tenté. Il y a des tentations. Elles sont nombreuses. Le Coran les cite. Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiri al muqantarati min al-zahabi wal-fiddati wal-khayli al-musawwamati wal-an'am wal-harth, etc., etc. Et d'autres versets. Les tentations existent, elles font partie des épreuves, et il est demandé aux musulmans de faire des efforts pour ne pas tomber dans les pièges qui lui sont tendus par son ennemi juré, qui est Shaitan, qui nous attaque justement par le biais des tentations. Parce que ce verset, il y a une lecture, Zayyana linnas. Zayyana, c'est-à-dire Shaitan lui-même, fait tout pour nous embellir les belles choses qui existent sur terre, auxquelles qui ne nous appartiennent pas, on n'a pas le droit de les toucher. Il nous embellit le haram. Parce que ce qui est bon peut être haram. Quand? Lorsque tu n'as pas le droit d'y toucher. Par exemple, tu vois une femme, elle est belle, elle est super, elle est magnifique. N'est-ce pas? Et avoir des relations avec une femme, c'est bon, c'est magnifique, c'est super. Mais si ce n'est pas fait selon les lois de Dieu, ça devient haram. Si c'est fait selon les lois de Dieu, c'est halal et tu es même récompensé. Alors Shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Les belles choses que Dieu a créées sur terre, il veut nous faire croire qu'il n'y a pas de limite, que tout est permis. C'est ça son objectif. Alors que Dieu lui nous dit, non, attendez. Les belles choses, je les ai créées pour vous, mais il y a des limites. Tilka hududullah. Ouais. Telles sont les limites de Dieu. Il ne faut pas les transgresser. Shaitan, il veut nous enseigner qu'il n'y a pas de limite. Tout est permis. L'expression que les jeunes disent, il faut profiter de la vie, c'est ça? Il faut profiter de la vie, c'est-à-dire qu'il faut s'éclater. C'est-à-dire, et pourquoi tu es coincé? Et coincé, ça veut dire, tu t'auto-contrôles, régules. Ouais, tu dis non. Shaitan, lui, il veut que nous ne disions jamais non, qu'on dise toujours oui pour tout. Alors que Dieu nous dit, non, attendez, le halal est bon. Et tout ce qui est bon est halal à condition que vous en fassiez usage comme moi, je décide. C'est-à-dire selon la loi. Ce qui ne t'appartient pas, tu n'y touches pas. Et l'overdose de halal n'est pas bonne. Donc, la quantité du halal, Dieu la régule aussi. Le diable, na'alatullahi alayhi, qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous pousser à l'excès. Ce qu'on appelle al-israf. Voilà, tubadhir, ne gaspillez pas, n'exagérez pas. Pourquoi? Innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin. Car les gaspilleurs sont les frères de qui? Des diables. C'est-à-dire, le diable nous pousse à dépasser la mesure, à dépasser les limites. Donc, les tentations, elles sont là. Elles existent. Ce que nous devons faire, c'est les connaître et apprendre à les gérer, apprendre à nous maîtriser. C'est pour cela que Dieu nous a donné deux choses pour ne pas nous égarer. Deux choses. Il nous a donné la révélation, le wahy, la vérité par excellence. Et comme Dieu nous a créés, il est celui qui nous connaît le plus et le mieux. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Allez, nous sommes une machine, Dieu nous a fabriqués, il nous a créés. C'est celui qui a créé la machine, qui l'a conçue, qui sait ce qui est bon et mauvais pour elle, et comment il doit l'utiliser, l'usage qu'on doit en faire. Donc Dieu nous dit, je vais vous donner le mode d'emploi, le guide que vous devez suivre impérativement pour éviter des accidents. Ça s'appelle el-wahy, la révélation. Ça s'appelle la sharia, la voie que Dieu a tracée. On est d'accord ? La religion. Mais ce n'est pas suffisant. Dieu nous a donné une deuxième chose pour nous protéger. Et quand je dis la révélation, c'est le Coran avec la dimension prophétique à travers la tradition. On est d'accord ? Ce n'est pas suffisant. Il faut une deuxième chose. Vous savez c'est quoi ? La raison, l'aql. La révélation et la raison. Parce que ceux qui ne sont pas doués d'intelligence, la révélation ne leur est pas utile. Puisque Dieu n'interpelle que ceux qui sont doués d'intelligence. Ouais ? Inna fi dhalika la ayatin pour qui ? Li qawmin ya'qilun, yasma'un, yatafakkarun, yatadhakkarun, li ulil albab, li ulil nuha, li dhi hijr. Regardez, toutes ces expressions vont dans le même sens. Quelles sont les personnes qui vont pouvoir comprendre la révélation et la révélation a un impact sur eux positif? Ce sont ceux qui ont le récepteur qui fonctionne. C'est quoi le récepteur? C'est l'aql, la raison. La preuve, celui qui est fou n'est pas responsable. L'enfant qui n'est pas encore mature, intellectuellement, n'est pas responsable. Le vieux grabataire qui a perdu la raison sénile n'est pas responsable. Donc, la raison est nécessaire pour éviter de tomber dans les tentations, pour éviter de se faire égarer. Il nous faut deux choses. Il nous faut l'aql et la révélation. Vous entendez ? Pour comprendre les tentations et les éviter. Vous verrez qu'il manque un petit ingrédient, mais je le dirai à la fin. L'imam Ibn Taymiyyah, radiallahu anhu, dit que Dieu a protégé l'homme grâce à deux choses, el-wahy, la révélation, et el-aql. Et il n'y a pas d'opposition, de contradiction et de conflit entre la révélation et la raison. La raison pure ne peut que mener à la révélation. Et la révélation n'est pas venue déstabiliser la raison. C'est pour ça que Dieu ne nous demande pas de croire en quelque chose qui est contraire à la raison. Par contre, il nous demande de croire des choses qui dépassent la raison. Dieu lui-même dépasse la raison et l'entendement. Et c'est possible. Mais quelque chose de contraire à la raison, impossible. Impossible. Pourquoi impossible ? Parce que Dieu nous a créés comme ça. On a au fond de nous-mêmes, hein, on va dire une machine qui s'appelle el-aql, et elle n'accepte pas les contradictions, n'accepte pas ta'arud. Ouais. Très bien. On va prendre un verset du Coran. Et on va l'analyser pour que vous compreniez l'importance de la raison pour ne pas tomber dans les tentations. Je répète, ce n'est pas suffisant, on verra pourquoi. Écoutez bien. Il y en a qui sont tombés dans un piège du diable, ils ont été tentés. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils consomment ce qu'on appelle les boissons enivrantes. On dit l'alcool, c'est ça? Ils boivent. Vous savez tous que c'est haram, vous connaissez tous les effets secondaires. C'est une tentation, c'est bon, l'alcool c'est bon, ça a aussi des effets positifs. Et puis ils sont tombés dedans. D'ailleurs les premiers qui sont tombés dedans, tu vois, pas les premiers mais parmi ceux qui sont tombés dedans, les Arabes. Les Arabes buvaient les boissons enivrantes, le vin, ils adoraient. Ils en buvaient en permanence, c'était pour eux la boisson par excellence. On est d'accord ? L'islam arrive, et vous remarquez que dans un premier temps, Dieu ne leur interdit pas l'alcool. Ce n'est pas le moment. Il faut d'abord les préparer spirituellement et intellectuellement, pour qu'ils puissent résister à la tentation et couper net avec l'alcool. Ça va prendre des années. Combien de temps ça prend? Minimum 15 ans. 13 ans à la Mecque et peut-être 2 ans à Médine, voire plus. Pendant 15 ans, les musulmans, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pratiquent la religion, la prière, la zakat, le jeûne, tout en consommant. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts. Oh, c'est dur de changer d'un coup. Vous savez comment Dieu a éduqué la première génération? 23 ans. Pendant 23 ans, Dieu les éduque, les compagnons, étape par étape. La révélation n'a pas été brusque, hein, totale. Non, 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 doucement, parce que l'être humain évolue. Hein, l'être humain, il est en évolution. Bref. Un jour, il y a quelqu'un qui prie, et dans sa prière, il était ivre. Et qu'est-ce qu'il a dit ? « Qul ya ayyuhal kafirun, a'budu ma ta'budun. » Oh, vous, mécréants, j'adore ce que vous adorez. Donc, vous voyez bien qu'il a fait une erreur. Il s'est trompé. Au lieu de dire « je n'adore pas », la a'budu, il a dit « j'adore ». C'est normal, il était plein. C'est ça ? Mais c'est grave quand même. Ouais. Dire le contraire de ce qu'il récitait, le Coran avec erreur, c'est... Et là, Dieu va révéler un verset du Coran qui dit aux musulmans « ne faites pas la prière en état d'ivresse ». C'est-à-dire, quand vous êtes plein, vous ne priez pas. Mais comme les prières, c'est 5 fois par jour à des moments différents, donc, ils doivent être à jeun au minimum pendant 12 heures. Après, ils ont 12 heures pour s'éclater, pour boire, pour se rattraper. Vous voyez comment Dieu leur a réduit déjà le temps durant lequel ils doivent boire. Ouais. Ils doivent consommer. C'est bien, ça s'appelle le sevrage. C'est tout doucement. Ouais. S'il boit 3 litres par jour, comme il ne peut plus boire pendant 24 heures, mais que pendant 12 heures, bah peut-être qu'il va boire que 2 litres maintenant, puisqu'il n'y a plus le temps. Ouais. C'est intelligent, non? C'est par étapes. Je vous raconte une anecdote tout de suite pour que vous compreniez la bonne compréhension de la religion. Au 18e siècle, en Russie, il y avait un tsar intelligent qui a décidé de faire une étude pour découvrir quelle est la religion de vérité. Parce que des religions, on en a plein sur Terre. Et il a demandé à des savants de lui faire un résumé de l'islam, du christianisme, du bouddhisme, du chien, de toutes les religions. Et ils lui ont fait un condensé. Et il a étudié. Il s'est basé sur ses études. Et à la fin, vous savez, c'était quoi sa conclusion? La religion la plus sensée, la plus logique, c'est l'islam. Et là, il va convoquer le grand moufti de la région. Il va discuter avec lui et va lui dire « Je les ai toutes étudiées, je les ai toutes mises de côté, les religions, et je me suis arrêté à l'islam parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus sensé et de correct. Mais il y a un problème avec l'islam. J'ai un problème avec cette religion. J'ai lu, j'ai compris, j'ai un problème. » Il lui a dit lequel? Il lui a dit « Vous interdisez l'alcool. » Vous interdisez les boissons enivrantes. Il lui a dit oui, l'alcool est haram en islam. Il a dit ouais, mais bon, c'est nous la vodka. Ouais, tu nous interdis la vodka, c'est l'oxygène là que tu nous interdis. Ouais. Plus il fait froid, on se réchauffe avec. Ouais. Je veux bien me convertir à l'islam et convertir mon peuple, qui va me suivre d'ailleurs, mais à une condition, nous voulons continuer à consommer de l'alcool. Vous savez ce que lui a dit le grand moufti? Il lui a dit « niet ». C'est apprendre ou à laisser. Si tu te convertis à l'islam, l'alcool est interdit, haram. Si tu ne veux pas reconnaître l'interdiction de l'alcool, pas de conversion, pas de bienvenue dans cette religion. Qu'est-ce qu'a fait le tsar? Il a dit « rentre chez toi avec ta religion ». Et il est mort, non musulman, et son peuple ne s'est pas converti. Franchement. Vous ne trouvez pas que ce moufti lui manque une case? Vous ne trouvez pas que c'est grave ce qu'il a fait? Vous ne trouvez pas qu'il a fermé la porte qui mène à Dieu? Il a éloigné des gens de l'islam? Au lieu de lui dire « convertis-toi, même si tu bois ton alcool, et entre nous, une fois qu'il sera converti, il va faire quoi le tsar ?» De deux choses l'une ou l'autre. quand il aura la foi, il aura bien compris la religion, bah, il va arrêter de boire, oui ou non? Ou, c'est ce qu'il va faire, bah, il va continuer à boire jusqu'à sa mort, et ça fera un musulman alcoolique, tout simplement. Mais oui, il y en a des musulmans alcooliques, ou il y en a pas? Non, il y en a, il y en a. Et c'est quoi boire de l'alcool? C'est un péché. Bah, je préfère un musulman qui fait un péché et qui meurt musulman, au moins, il est sûr d'entrer au paradis. Voire même, il se peut qu'il n'aille pas du tout en enfer, parce que Dieu est capable de lui pardonner. Peut-être même, il a fait des bonnes actions qui vont effacer les mauvaises actions. Mais le mec, s'il n'a pas la shahada dans le cœur, il est cuit. Vous vous rendez compte de la gravité? Quand on n'a pas bien compris la religion, on peut éloigner les gens de l'islam. Viens mon frère, convertis-toi. Même si tu bois de l'alcool après ta conversion, alhamdoulilah, tu es un musulman. Et il y avait des compagnons qui buvaient de l'alcool, même après leur conversion. Oui. Des Arabes, ils se sont convertis, ils ont continué à boire de l'alcool. Même après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est décédé. Après la mort du prophète, il y a des gens qui ont continué à boire de l'alcool. Un compagnon, il a continué à boire de l'alcool, parce qu'il l'a interprété. Il y avait même un grand moujahid qui est alcoolique. Un moujahid, un grand combattant musulman, alcoolique. Il s'appelle Abu Mihjan al-Thaqafi. C'est qui Abu Mihjan Hada? Quand Saad ibn Abi Waqqas, général de l'armée musulmane, a fait le siège, la bataille de l'Qadisiyya, hein, l'Qadisiyya, contre les Perses. Saad est tombé malade, ne pouvait pas se mettre debout. Ils ont construit une tour immense. Il était tout en haut de la tour et avec ses jumelles, il suivait la bataille, il donnait les ordres. Hein? Il y avait quelqu'un à côté de lui et il faisait écrire les ordres qui étaient jetés en bas à des émissaires, des facteurs qui allaient les distribuer aux différents chefs de corps d'armée. Saad y dirigeait la bataille comme ça pendant plusieurs jours. Et il y avait dans l'armée musulmane un homme qui s'appelle Abu Mihjan al-Thaqafi, mais un alcoolique, qui s'est fait arrêter et qui a été jugé, qui a été condamné à la prison. Donc il est arrêté, il est dans les fers, on a fait une prison de fortune, dans cette tour-là à côté. Et puis la bataille elle est dure, elle dure plusieurs jours. Et les musulmans ont du mal, voire même parfois ils font marche arrière. Donc Abu Mihjan est au courant du déroulement de la bataille et des rapports. Et un jour, Abu Mihjan profite du moment où on lui ramène à manger. Et qui c'est qui lui ramène à manger? C'est la femme de Saad ibn Abi Waqqas. Et vous savez ce qu'il lui dit? Il lui dit, je sais ce que mes frères sont en train de subir. Et moi, dans mes chaînes, je boue. S'il te plaît, libère-moi. Je vais aller combattre l'ennemi et permettre aux musulmans de l'emporter. Et une fois la bataille terminée, si je ne tombe pas martyr, je reviendrai et tu me remettras les chaînes. C'est ce qu'elle a fait. Elle l'a libéré. Et là, c'est ce qu'il va faire. Il va prendre le cheval de Saad ibn Abi Waqqas. Une jument blanche. Ouais. Elle balqa. Et il prend les armes et il s'en va. Saad ibn Abi Waqqas, qui supervise la bataille, à un moment donné, qu'est-ce qu'il aperçoit? Il aperçoit un homme sur son cheval blanc qui est en train de faire des dégâts monstrués dans le camp ennemi. Une catastrophe. L'ennemi est en train de quoi? De perdre la bataille. Grâce à quoi? À cet homme qui était téméraire, courageux, on dirait aujourd'hui Rambo. Ouais. Il débarque et fait un massacre et il booste tous les musulmans. Saad, c'est ce qu'il dit. Il dit, subhanallah, qui est cet homme téméraire et courageux qui fait des exploits et qui donne du courage aux autres? Wallah, ici, Abu Mihjan n'était pas en prison. Je dirais que c'est lui, mais ça ne peut pas être lui, il est en prison. Et si mon cheval n'était pas dans mon étable, bon là, je dirais que c'est Al-Balqa, c'est mon cheval, un cheval aussi rapide et bien dressé. C'est ce qui s'est passé après quelques jours. Abu Mihjan revient et il dit à la femme de Saad, tu me remets les menottes. Et là, elle annonce à son mari que cet homme, c'était Abu Mihjan, c'est moi qui l'ai libéré. Et qu'est-ce que va faire Saad? Il va le libérer, il va lui dire, pourquoi tu bois? Regarde, subhanallah, de quoi tu es capable et comment les musulmans ont besoin de toi. C'est ce qu'il lui a dit, Abu Mihjan. Il lui a dit, je jure qu'à partir d'aujourd'hui, je ne boirai plus une goutte d'alcool. Et il a arrêté d'être un alcoolique. Donc vous avez vu, subhanallah, il vaut mieux un musulman qui commet un péché, ouais, même si il est grand, que mourir non musulman. Très bien. Une autre fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec Ali ibn Abi Talib et d'autres compagnons, passe devant un groupe de musulmans qui sont assis en train de boire. Ils étaient pleins. Et parmi ces gens, Hamza ibn Abd al-Muttalib, son oncle, il était plein, ivre. Et vous savez ce que dit Hamza quand il aperçoit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Il lui dit, viens ici mon esclave. Hein? Il a interpellé le prophète et il l'a traité d'esclave. Bien entendu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a très bien compris que Hamza n'était pas dans tous ses états. Il l'a laissé et a continué sa route. Quand Hamza va cuver son vin, il va retrouver ses esprits, on va lui dire, tu as manqué de respect au prophète, alayhi salam. C'est grave ce que tu as fait. Et là, il va se mordre les doigts. A'oudou billah, l'alcool a autant d'emprise sur nous, si bien que l'on prononce des paroles insultantes à l'égard du prophète, alayhi salam. Et là, les compagnons, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont venir questionner le prophète, sallallahu alayhi salam. Ils vont dire, ô messager de Dieu, donne-nous une solution et une réponse définitive quant à l'alcool. Il y a des versets qui sont révélés qui disent que l'alcool... Mais jusqu'à présent, les compagnons, pour eux, l'alcool n'est pas interdit. Il est interdit pendant la prière. Dans l'alcool, il y a, dans le raisin, il y a des choses qui sont très bonnes, puis il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Et le verset est révélé. Le verset se trouve dans la sourate La Vache. Il dit « Yas'alunaka anil khamri wal maysir qul » Lorsqu'ils te questionnent au sujet des jeux de hasard et de l'alcool, dis-leur. Donc les compagnons viennent voir le prophète et lui disent, prophète, dis-nous, est-ce que c'est halal ou haram? Et ce n'est pas le prophète qui répond, mais c'est Dieu qui répond avec le verset du Coran. Alors qu'est-ce que Dieu dit? Qul, qul, ça veut dire dis. Allez. Ô toi prophète, donne-leur la réponse suivante. Dites-moi, l'alcool c'est haram, oui ou non? Oui ou non? Haram? Ça va? Très bien. Posez la question à n'importe quel musulman, dites-lui, consommer de l'alcool halal ou haram, il va dire haram. Hein, c'est la réponse, c'est un automatisme chez le musulman. Même le mec, il est pété, il boit, tu lui dis l'alcool c'est haram, il dit oui c'est haram, mais l'arabe, je bois. C'est connu, même le cochon. Tu dis à un musulman, consommer de la viande de porc, c'est halal ou haram? Il dit, c'est haram. Il en mange, hein? C'est haram. Parce que c'est ce qu'on appelle ma'ulima min ad-din bid-darura. C'est-à-dire, ce sont des évidences, hein, dans la religion musulmane. Regardez. Regardez la réponse que Dieu apporte. Dieu ne dit pas, qul, dis-leur, c'est haram. Il ne dit pas ça. Ça, c'est notre réponse à nous. C'est comment Dieu répond? قل dealer فيهما اثم كبير ومنافع للناس. Il y a dans l'alcool du mal des inconvénients et il y a dans l'alcool du bien des avantages. Vous avez vu la réponse, subhanallah. Au lieu de dire c'est haram, rentre chez toi, l'affaire est classée, réponse en deux secondes, un mot, six lettres, on n'en parle plus, non. Regardez. Dieu veut que que la réponse soit une réponse qui va permettre aux croyants de comprendre pourquoi l'alcool est haram. Et ça s'appelle de la pédagogie. Ton gosse, quand il te pose une question, il ne faut pas lui répondre avec un mot, la moitié d'un mot. Oui, non, haram, halal. Il faut que tu prennes le temps de lui expliquer. Parce que si tu ne lui expliques pas, il ne peut pas être convaincu. Il n'a pas compris. Ben, c'est exactement ce que Dieu fait. Au lieu de nous dire c'est haram, circuler, n'en buvez plus, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit, vous allez réfléchir. Je vais vous pousser à quoi ? À développer chez vous l'esprit critique. Dans l'alcool, il y a du mal, il y a du bien. Vrai ou faux ? C'est vrai, oui, Dieu l'a dit. Très bien. Quel est le bien qu'il y a dans l'alcool ? Guérir les blessures, oui, vas-y. Quoi d'autre ? Business, non, business. Business. Tu vas investir, mon frère, achète des bouteilles, là, au mois de décembre. Tu les mets dans ta cave. Tu les laisses dormir pendant 30 ans. Et on se revoit dans 30 ans. Et... Non ? D'ailleurs, l'économie française, l'alcool a une bonne... On exporte quand même. Hein. On exporte beaucoup. Surtout, on consomme, nous, les nordistes. Vous n'avez pas vu tous les... Gling, gling, le 6 du mois. Ouais, les bouteilles, les... Donc, c'est du business, c'est de l'argent. Mais il y a autre chose dans l'alcool. C'est bon. Mais oui que c'est bon. Demande à ceux qui en boivent. On va te dire, un Bordeaux, c'est magnifique. Tu prends un bon couscous, tu le fais sur d'un Sidi Ibrahim, c'est le top. Vous vous rendez compte? Regardez, Sidi Ibrahim. En Algérie, on a fait un vin et on l'a appelé Sidi Ibrahim. Voilà, yadou billah. Ouais. Pareil que c'est bon. Ouais, tu prends, tu sens, tu goûtes, ouais, tu l'avales. Ouais. C'est une science, non? L'œnologie. Ouais, ça paye. Hein. L'alcool, c'est bon. Attends, il y a encore mieux. Tu as des soucis, bois, tu les oublies. Je te le jure, tu reçois une facture. Tu ne sais pas comment la payer. Bois, tu vas voir, la facture, elle disparaît. Bon, tu la retrouves le lendemain, c'est sûr. Elle a même augmenté. Il y a la bouteille d'alcool en plus. Donc, dans l'alcool, il y a des avantages. Et regardez, subhanallah, comment Dieu est juste. Vous savez tous que l'alcool, c'est haram. Et que la conclusion, ça sera que c'est pas bien. Mais Dieu, nous apprend à être juste même avec notre ennemi. L'alcool, c'est notre ennemi. Oui ou non ? Ah ben, ton ennemi, tu dois dire la vérité sur lui. Tu dois dire ses qualités et ses défauts. Et quand ton ennemi dit vrai, ben, tu dois accepter que la vérité qui sort de la bouche de ton ennemi. Quand ton ennemi fait bien, tu dois applaudir. Ouais, c'est bien ce que tu as. C'est mon ennemi, hein, mais je dis quand même c'est bien. Regardez, Dieu, qu'est-ce qu'il dit de l'alcool ? Il y a du bien dedans. Il faut être impartial. Il ne faut pas être partial. Et retenir aveuglement avec quelqu'un. Non. T'es mon ami, mais ça m'empêche pas que tes défauts, ben, je vais essayer de les corriger. Ma critique sera une critique juste. Quand tu fais du bien, je le dis. Quand tu fais du mal, je le dis. L'alcool, il y a du bien, il y a du mal. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاءَنُ قَوْمٍ. Que la haine, l'aversion, l'animosité que vous pouvez avoir envers des gens ne vous aveugle pas si bien que vous devenez injuste. Vous devez rester juste, même avec une bouteille d'alcool. Eh oui, il y a du positif, il y a du négatif. Vous savez pourquoi ? Parce que si vous n'êtes pas comme ça, l'autre qui vous écoute, qui vous entend, vous n'allez pas le convaincre. Je vais raconter une anecdote personnelle. Ça m'est arrivé il y a 30 ans. Il y a 30 ans, j'étais en terminale. J'avais une prof de philo, magnifique, mademoiselle Lette. Je l'adorais. On dirait Platon. Elle était d'une sagesse, d'une gentillesse, d'une patience. Mashallah. Et bien entendu, à l'époque, on était chaud. Je lui faisais de la da'wa. Ah oui, j'essaie de la convertir. Elle aussi, elle essayait de me convertir. Ouais. Donc, j'essaie de la convertir. Et je parlais toujours avec elle. Je passais mon temps à parler avec elle, 9 heures par semaine de philo. Ouais. Même les mercredis après-midi, j'allais chez elle. Et je lui expliquais l'islam. Et un jour, on a parlé de l'alcool, l'interdiction de l'alcool, etc. Puis je lui dis, pourquoi l'alcool est haram? L'alcool est haram, attention, hein, les chiffres, tout, les dangers, tout ça, par cœur. Et vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit, je suis d'accord avec vous. Tout ce que vous dites, c'est vrai. Tous les méfaits de l'alcool que vous avez cités sont réels. Mais, moi, après 8 heures de cours, je rentre chez moi, je prends un petit rosé. Mais ça me fait du bien. Je perds pas la tête. Je tue personne. Pourquoi tu veux me l'interdire? Pourquoi tu veux m'interdire de boire une boisson qui n'a aucun effet négatif sur moi? Au contraire, ça me fait du bien. Je veux bien que l'alcool en excès ou l'alcool qui a un effet négatif sur une personne, il faut l'interdire. Mais moi, pourquoi tu me l'interdis? Elle m'a coincé, hein. Et ça ne sert à rien de lui dire, le prophète alayhi salam a dit, ce qui est interdit en grande quantité est interdit en petite quantité. Ben, elle ne croit pas au prophète. Ça, c'est le discours pour le musulman. Elle, tu dois lui apporter une réponse qui est rationnelle. J'ai perdu 1-0. C'est dur de perdre un match. Hein. Je rentre chez moi, wallah, je dis celle-là, je vais revenir, le retour, il va être war. Mais il faut que je trouve. Avec la réflexion, la recherche, madame, j'ai la réponse. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, vous avez raison. Dans l'alcool, il y a du bien. L'alcool a des effets positifs. Et c'est la vérité, oui ou non? Et là, enfin, tu reconnais. Ouais. Tu l'avais diabolisé la dernière fois. Non, non, non. Il y a du positif, il y a du négatif. Mais l'alcool doit être interdit en grande quantité, en petite quantité, pour ceux qui se maîtrisent et ceux qui ne se maîtrisent pas, parce que les effets négatifs sont plus nombreux. La preuve, vous, madame, qui savez vous contenir et vous retenir, vous n'êtes pas la règle, et même si la majorité savent se contenir, ben vous savez ce qui va vous arriver demain? Vous allez traverser la route, il y a quelqu'un qui a bu, qui va vous envoler. Ou non, votre petite fille bien-aimée, d'accord, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se faire violer par quelqu'un qui est ivre. C'est-à-dire, pour l'intérêt général, vous entendez? Nous allons interdire l'intérêt particulier. Et ça, c'est une règle en islam et c'est une règle de droit. Ouais. Pour l'intérêt de la société, l'alcool a des effets pervers et négatifs sur un grand nombre, et des effets positifs sur un petit nombre, donc la majorité l'emporte sur la minorité. Elle m'a dit, là ok, je suis d'accord. Très bien. Dans l'alcool, il y a du positif, c'est ce que le Coran dit. Et dans l'alcool, il y a du négatif. Vous connaissez les dangers de l'alcool? Je ne vais pas vous les citer. Ça va? Ouais. Si vous voulez mieux les connaître, ouais, demandez à des enfants qui ont eu des parents alcooliques. Ils vont vous raconter. Ils vont vous raconter ce que c'est quand le père, il rentre à 19h, à 20h, et il est plein. Qu'est-ce qu'il fait à maman? Qu'est-ce qu'il fait aux enfants? Il y a un frère, de la région ici, Mskin, il s'est converti à l'islam. Et une fois, je l'ai pris avec moi pour faire une conférence à Mons. Et en plein milieu de la conférence, il est sorti. Au moment du repas, j'ai dit à mon fils, va me le chercher. Il était dehors. Et quand il l'est ramené, il avait les yeux rouges. Au retour, je lui dis, qu'est-ce que t'as, Dominique? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ma sœur, elle m'a appelé. Parce que papa y est rentré, plein comme d'habitude. Et comme d'habitude, il s'est mis à boxer maman. Et comme j'étais pas là pour servir de tampon, bah, maman, elle s'est fait tuer par papa. C'est ce qu'il m'a raconté, Dominique Mskin? Il m'a dit, avant, je me mettais entre papa et maman et je prenais les coups. Maintenant, quand il commence, je le fauche, je le fais tomber et je lui mets des droites jusqu'à ce qu'il tombe évanoui. Et après, je le tire et je le mets dans le lit et on le laisse comme ça. Est-ce que vous avez entendu, Mskin? Et il me le dit en pleurant. Hein. C'est pas le martyr, ça? C'est pas souffrir le martyr? Avec maintenant, je suis obligé de le... Et il a attrapé le cancer, hein, son père. Hein. Cirrhose de la foie. Et... Bon, je vous passe les détails. Bref, les dangers de l'alcool sont nombreux. Plus nombreux que les avantages. On est d'accord? C'est ce que le Coran dit. En fait, écoutez bien, vous savez ce que le Coran nous dit? Il nous dit, ohé musulman, avant de parler d'une chose, tu dois d'abord la connaître. C'est ça? Deuxièmement, si vous voulez expliquer à quelqu'un l'islam, vous avez intérêt d'avoir du savoir et des connaissances. Pour être convaincant et pour être juste. Et si vous voulez que la personne soit convaincue, vous devez apporter des arguments indiscutables. C'est pour cela que le musulman doit avoir une connaissance, une culture éclectique, générale. Ouais, générale. Il ne faut pas se contenter d'une chose. Il faut lire de tout, écouter de tout. Comme ça, quand tu parles, les gens ils vont voir en toi quelqu'un de cultivé, quelqu'un de savant. Et là, ta parole, elle a du poids. On n'écoute pas et on ne suit pas un ignorant. C'est ça que Dieu veut de nous. Donc, si on te questionne sur l'alcool, dis-leur, il y a du mal, il y a du bien. On est d'accord? La justice, le plus et le moins. Et d'ailleurs, vous savez, ce verset, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous enseigne que tout ce que Dieu a créé, écoutez bien, contient du positif et du négatif. Tout ce que Dieu a créé. Sur terre. Au paradis, c'est que du positif. Et en enfer, c'est que du négatif. Mais sur terre, tout est relatif. Vous entendez? Il y a du bien et il y a du mal. Même l'être humain. L'être humain, il y a du bien en lui, il y a du mal. Il est capable du bien, il est capable du mal. Bah, même chose. Même le halal. Le halal, il est bon en soi. Mais il peut devenir mauvais. On l'a dit, quand il est consommé par excès ou quand ton corps est malade et tu lui donnes un halal dont il ne veut pas, il devient négatif. Hein, ça, c'est la loi de Dieu sur terre. Rien n'est parfait sur terre. La perfection, c'est dans l'au-delà. D'accord? Il faut relativiser et faire avec les lois qui gèrent la terre. Donc, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Il veut nous dire, attention, chers musulmans, le regard que tu dois porter sur les choses et les humains doit être un regard juste, un regard précis et un regard qui a pour, écoutez bien, c'est important, fondement que il y a du bien et il y a du mal. En fait, vous savez qu'est-ce qu'on doit avoir dans le cerveau, dans la tête? La balance. Wa wada'a al mizan. Alla tatraw fil mizan. Regardez, Dieu a tout créé et tout est basé sur la justice et la justesse. Sur l'équilibre. Ouais, plus, moins. Même yawm al-qiyama, quand on va être jugé, comment ça va se passer? C'est la balance, c'est ça? وَنَضَعُ الْمَوَازِنَ الْقِسْطَ. Vous avez vu? الْمَوَازِنَ الْقِسْطَ. La balance, mais une balance juste, parce que la balance, elle peut être trafiquée. Hein. Non, non. Ça, c'est une balance parfaite et précise. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِنُهُ فَهُوَ فِي عِشَةٍ رَضِيَةٍ. C'est-à-dire, si tu as 50,1, regardez le principe de majorité. Il existe dans le Coran. 50,1. Ben c'est bon. Allez hop, au paradis. T'as 49,9. T'es pas clair. T'es pas clair. Soit Dieu, il te fait passer, ou soit tu vas purger ta peine. Vous avez vu? La balance. Ouais. Donc, le plus et le moins. Tu regardes avec les deux yeux. Tu écoutes avec les deux oreilles. Vous entendez? tu écoutes avec les deux oreilles. Hein? Et ça, c'est le propre de nos savants spécialisés dans la transmission de la sunna du prophète, alayhi salam. On les appelle ulama al-jarh wa al-ta'dil. C'est une science, hein? Al-jarh wa al-ta'dil. Ça veut dire quoi, al-jarh? La blessure. Al-ta'dil, c'est le contraire. C'est-à-dire, nos savants, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont critiqué les transmetteurs, les narrateurs, des fiches techniques, ouais, les qualités de la personne, les défauts de la personne, au niveau intellectuel, au niveau humain, au niveau religieux, au niveau psychologique. Les qualités, les faiblesses, les défauts, les... Comme ça, plus, moins, plus, moins. Et celui qui a plus de plus, ben il passe. Le hadith, la chaîne de transmission, elle est bonne. S'il est faible, le hadith n'est pas bon. Vous avez vu, subhanallah, nous sommes, et nous devons être, et nous devons rester la communauté du quoi? De la justice et de la justesse. Et nos jugements doivent être animés par, non pas la passion, mais par la raison. Et même notre ennemi, Shaitan, quand il dit vrai, qu'est-ce qu'on dit? Sadaqa wa huwa kadhub. C'est-à-dire, le prophète alayhi salam a dit du diable, oui, il a raison. Pourtant, c'est le diable. Ben, un jour, le diable a dit une vérité et le prophète a dit, le diable a raison. Et pourtant, c'est Shaitan. Allez, ce jour-là, à ce moment-là, ce qu'il a dit, c'était vrai et le prophète le reconnaît. C'est pas c'est le diable qui l'a dit? Non, c'est pas bon. Attends, écoute ce qu'il a dit, analyse ce qu'il a dit et puis si ça correspond à la vérité qu'on a, oui, pourquoi pas? On te questionne sur l'alcool. Deux points. Dis. Dis pas que c'est haram. Parce que si tu dis que c'est haram et tu te tais, tu t'en vas, qu'est-ce que ça va avoir comme résultat? Ben, regardez nos jeunes. Nos jeunes qui ont grandi avec des parents qui n'avaient pas la langue pour parler à leurs enfants, qui n'avaient pas la culture et qui n'avaient pas une connaissance de la religion pointue. Résultat, moi, je me souviens quand on était gosse à 10 ans. C'est haram de faire ça. Première réaction. Pourquoi? Boum, la claque. Tu es insolent. Scott, tais-toi. Même quand on était gosse, la mosquée, l'imam, avec son bâton, hein, ouais, avec le bâton, ouais, il nous dit quelque chose. Tu lèves le doigt. Pourquoi? Oh là là, il y a des bâtons à rallonge. Flexible. Boum, tu te prenais un coup. Attends, le gosse, il va à l'école. Le prof, il lui fait une démonstration. A plus B au carré est égal à A carré plus 2AB plus... je ne sais plus combien, B carré ou je ne sais pas quoi. T'as vu, c'est mathématique, c'est rationnel. Ouais. Et quand il s'agit de notre religion, tais-toi, c'est comme ça. Dis que tu ne sais pas. Dis, Allah alam, cherche. Non, 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 non. Tu traumatises le gosse. Non, vous savez qu'est-ce que ça donnait comme résultat? Sauf qui peut. Ils se sont sauvés, nos jeunes. Ils se sont barrés. Je parle de ma génération, hein. Il y a 40 ans, il y a 30 ans. Ils se sont sauvés. Et aujourd'hui, wallah, on en rencontre des gens qui ont la quarantaine. Et quand tu leur expliques, ah, c'est comme ça. Ben moi, mon père, il m'avait dit ça. Ben, mes parents, ils m'ont jamais dit ça. Mon fils, il n'y a pas longtemps, il était dans une famille où il y a un défunt, un mort. Il a accompagné la famille pendant plusieurs jours et il donnait des leçons aux garçons et aux filles. Et quand il était avec une trentaine de filles de la famille, eh ben, wallah, mon fils, il m'a dit, les pauvres, elles sont victimes de leurs parents qui ne leur ont jamais expliqué les choses, mais qui leur ont imposé ou qui leur ont dit des choses contraires au bon sens et à la raison. Contraires au bon sens et à la raison. Contraires au ma'rouf. Ce qui est communément reconnu par tout être humain, normalement constitué comme étant bon, juste et vrai. Catastrophe. Moi, je me souviens, quand j'étais gosse, il fallait pas parler à table. Chut, tais-toi. Tu parles, boum. On mange, on doit se taire. Alash.
C'est pas logique.
Ben, c'est comme ça. On doit se taire quand on mange. Et c'est mélangé avec la religion. Le pain, quand tu posais le pain, si jamais il retournait, t'es mort. Ouais, c'était des superstitions. Pourquoi ? Toi, t'es rationnel. Elle peint à droite, à gauche, à l'envers, debout. Qu'est-ce que t'en as ciré ? Non. Donc, attention. Le Coran veut qu'on enseigne à la jeunesse et à nos enfants l'esprit critique, l'art de penser, de réfléchir et d'analyser. L'alcool, viens, je vais te convaincre qu'il est mauvais, qu'il est dangereux, à travers un raisonnement. Il y a du bien, il y a du mal. Il y a du bien, il y a beaucoup de mal. Et je te fais la liste. Je te fais un tableau. Je te montre même un reportage de 15 minutes, des témoignages. Très bien. Virgule. Donc, on te questionne sur l'alcool. Dis, il y a du bien, il y a beaucoup de mal. Virgule. Le mal est plus important que le bien. Les méfaits sont plus nombreux que les bienfaits. Vous avez vu ? Tu penses, tu réfléchis, tu critiques, tu analyses, et après tu fais l'addition. Ouais ? Il y a plus de mal que de bien ? Ou plus de bien que de mal ? Tu fais quoi s'il y a plus de mal que de bien ? Tu fais quoi ? Regardez, subhanallah. Allah nous a créé avec des réflexes. Tu prends ta main, tu la rapproches du feu, elle fait quoi ta main ? Marche arrière. Fais ça. Rapproche-toi, ça commence à chauffer. Ta main, que tu le veuilles ou non, elle va s'éloigner. Ça s'appelle un réflexe. Ouais. Je prends le marteau, je te donne un coup, hop, ta main elle se sauve. Allez, c'est pas toi qui as dit à ta main, barre-toi, il va te donner un coup de marteau, ça fait mal. Vous êtes bien d'accord ? Votre main, vous lui parlez pas. Ouais ? Vous lui dites pas. Et ça se fait en combien de temps, ça ? Quoi ? Attends, si tu dis une seconde, elle a cramé ta main. Non, c'est 0,00000 seconde. C'est impressionnant, vous êtes d'accord ? C'est pour eux, nous, protéger. Eh bien, écoutez, comme notre corps a des réflexes pour se protéger des dangers physiques, notre raison a des réflexes. Regardez, on va faire une expérience. Vous êtes prêts ? Je vais vous dire quelque chose. 5 plus 5 égale 23. Regardez, j'ai à peine dit 23, il y a souri. En même temps, j'ai fini de dire 23, il a fait un sourire. Pourquoi c'est quoi ton sourire ? Ton sourire, c'est... Il est nul.
N'importe quoi. C'est faux. Vous avez vu ? Allez, t'as entendu sur le champ, sans réfléchir, oui ou non ? Ta raison refuse une erreur, une contradiction. Hein ? L'aql, Allah l'a créé, il est sensible. Il est sensible à quoi ? Il est sensible à tout ce qui est bête, stupide, nul, contraire. Vous avez compris ? Regardez maintenant. Écoutez bien. Allah nous dit, il y a du bien, il y a beaucoup de mal dans l'alcool. Le mal est plus important que le bien. Regardez le réflexe de la raison. Donc, si tu es normalement constitué, si ton cerveau est en bonne santé, qu'est-ce que tu vas dire ? C'est pas bien. Tu vas dire, c'est... En arabe, tu dis comment ? C'est haram, c'est interdit. Bon, demain, je t'invite chez moi et je vais te proposer un travail. Je vais te proposer... J'ai une montagne chez moi de 100 tonnes de cailloux. Et je vais te proposer de travailler chez moi avec une brouette et une pelle, tu vas déplacer les 100 tonnes, je te donne 3 mois, et après 3 mois, je vais te payer 100 euros. Regarde, tout de suite, il a rigolé. Tout de suite, il a fait... Pss. Pourquoi tu as fait ça, Alash ? Tu sais pourquoi ? Parce que ton cerveau, ta raison n'accepte pas ce qui est injuste, ce qui est nul. Ben, c'est ça qu'Allah veut de nous. Écoutez bien, il veut que nous soyons sensibles à ce qui est mauvais, à ce qui est dangereux. Mais comment faire pour être sensible? Il faut avoir la connaissance et la science. Il faut avoir les réflexes intellectuels. T'entends? Il faut être éveillé d'esprit. Comme ça, tu es là, tu écoutes, tu regardes, et en même temps la machine, elle est en marche, t'analyse, plus, moins, 40, 50, 32, et tu calcules. Et tout de suite, non, j'accepte pas. Pourquoi? Il y a plus de mal que de bien. Ce que tu dis, c'est faux, pour telle et telle raison. Voilà, c'est ça que le Coran veut de nous. Le Coran ne veut pas que nous apprenions la religion bêtement. C'est haram. Tu me fais la liste des choses haram. Non. T'es pas un perroquet. Je veux pas que tu me fasses une récitation. Moi, je veux que le Coran, tu le comprennes. On te questionne sur l'alcool? Dis haram. Non. Tu sais pourquoi je veux pas que tu dises c'est haram? Je veux d'abord que tu comprennes pourquoi c'est haram. Comme ça, quand tu vas dire c'est haram, ça sera un haram. Vrai ou faux? Et subhanallah, c'est ce qui est puissant. C'est à la fin, Dieu dit wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, le mal est plus important que le bien, et le verset s'arrête là. Le verset s'arrête là. On a envie de dire, normalement, le verset devrait continuer. Il y a plus de haram, il y a plus de mal que de bien. Donc, conclusion, c'est, eh ben, Dieu ne met pas la conclusion. C'est pourquoi il n'y a pas la conclusion. Elle est où la conclusion? Elle n'est pas dans la suite du verset. Le verset s'arrête là. Il manque la conclusion. Elle est où la conclusion? Où ça? Ben, elle est chez toi. La conclusion, hein? Voilà, c'est toi qui dois la donner, la conclusion. Voilà, tu sais qu'est-ce que j'ai réussi à faire? J'ai réussi, tu m'as posé la question, est-ce que l'alcool est haram? Je t'ai poussé toi-même à dire que c'est haram. Parce que si ça vient de toi, c'est super. Tu sais pourquoi? Parce que t'es convaincu. Et là, t'as plus d'excuses. Ouais? Mais si je te l'ai imposé sans t'expliquer, peut-être parce que t'as peur de moi, tu vas dire amen, et dès que je tourne le dos, tu fais quoi? Vous avez compris? C'est ce que font les jeunes, hein? Ah ouais? Devant son père, il a dit, il faut pas faire ça. Oui. Dès que papa n'est pas là, dès qu'il est dehors, il y a personne, il fait quoi? Il fait tout ce qui est interdit. Pourquoi il le fait? Parce que il n'est pas convaincu. Très bien. Tout ce que je viens de dire est vrai, mais pas suffisant. Vous savez pourquoi? Le médecin, bac plus 8, bac plus 10, l'autre, il a 3 doctorats, et il boit. Il est le mieux placé pour connaître les dangers de l'alcool, c'est qui? C'est le médecin. Ou c'est le pompier qui ramasse les corps. Ou c'est le croque-mort, les pompes funèbres qui voient les gens qui meurent à cause de l'alcool. Lui-même, il boit. Ouais? Ton médecin, il fume. Tiens, pourtant il a la raison. Pourtant il connaît les dangers. Et comment ça se fait alors? Il le fait quand même. Vous voyez que la raison n'est pas suffisante. Alors il faut quoi maintenant? Pour ne pas tomber dans les tentations. Vous savez ce qu'il faut? Écoutez bien. Après la raison, après la science, après la connaissance, après la conviction, après la clairvoyance, ouais, tu sais qu'est-ce qu'il faut? Il faut obligatoirement, hein, c'est important, une force, ouais, autre que la raison, c'est la foi, c'est l'iman, ouais. Et la foi,
elle descend d'en haut. La foi, c'est du domaine de l'âme. Attention, vous êtes d'accord qu'il faut réfléchir, penser, hein, parce que la foi, elle a un volet rationnel. Mais le gros de la foi, vous savez, c'est quoi? C'est quelque chose d'autre. Vous entendez? C'est très important. Mais, avant de parler de ça, il faut faire une parenthèse qui est importante. Écoutez bien, les jeunes. Ta raison qu'Allah t'a donnée pour te permettre de voir les dangers, ouais, peut tomber en panne. Comment est-ce qu'elle va tomber en panne, ta raison? Elle tombe en panne comment? Bah, si tu bois de l'alcool, tu perds la raison. Si tu fumes, tu perds la raison. Oui ou non? Ah, mais ça c'était les moyens qu'utilisait Shaitan et qu'utilise encore Shaitan avec les gens qui sont faibles. Maintenant, Shaitan, il est trop fort. Et oui, il est balèze. Il va te faire perdre ta raison autrement. Tu n'en es même pas conscient. Vous êtes prêts? C'est horrible, hein, maintenant, ce que vous allez écouter. Et c'est ça qui fait qu'on perd beaucoup de jeunes aujourd'hui. Les gens de ma génération, c'était l'alcool, la drogue. Les gens d'aujourd'hui, le diable, qui travaille et qui a des collègues humains, il a des armes plus sophistiquées, plus sournoises. Tu vois que du feu. C'est du domaine de la nanotechnologie. T'entends les armes? Ils ont étudié le cerveau humain. Ça fait des années qu'ils l'étudient. Des décennies qu'ils l'étudient. Vous êtes prêts? Cerveau. Étudié. Puis ils l'ont découpé. Ouais. Il y a une partie, on l'appelle le cortex, une partie, le cerveau reptilien. Puis ils ont découvert. Cette partie, ben, elle s'occupe de ça. Cette partie s'occupe de ça. C'est ça? Puis il y a une partie qui s'occupe des envies. Vous êtes prêts? Très bien. Regardez la science. Ça s'appelle de la neuropsychologie. Vous entendez? Ils ont étudié. Ils ont fait des expériences. Ils ont un niveau, écoutez bien, où ils sont capables aujourd'hui de manipuler ton cerveau, de jouer avec ton cerveau, de jouer avec tes sentiments. C'est de la manipulation. Vous voulez la preuve? C'est tout simple. Allons-y. En France, il y a une loi qui a été votée au Parlement, il y a quelques années, pour interdire, vous savez quoi? Le neuromarketing. C'est quoi le neuromarketing? Moi, Auchan, Carrefour, je veux vendre un produit. Je fais comment pour le vendre? La pub, c'est ça? Très bien, la pub, c'est fait par qui? Des pros, des spécialistes, des neuropsychologues. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont étudié. Et ils savent sur quel bouton il faut appuyer pour que tu achètes tel produit. Même ton goût, tu ne maîtrises plus. Je vous renvoie, peut-être pas ce soir, il est tard. Demain, vous regarderez, vous tapez YouTube, TV lobotomie. Vous entendez? Vous tapez TV lobotomie, Alain Desmurges. C'est un livre, achetez-le, c'est encore mieux. Sinon, vous écoutez sa conférence, elle dure une heure. Il vous explique tout ça. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit dans sa conférence? Ils ont fait une expérience. Ils ont pris des gens, ils leur ont mis un bandeau. Ils ont pris deux gobelets. Dans un gobelet, ils ont mis du Coca, dans l'autre, du Pepsi. Ils ont dit, gens, buvez. Hop, ils ont bu. Quel est le meilleur? 93% ont voté Pepsi le meilleur. Ils ne savent pas qui est Pepsi. Gobelet numéro 1, dans lequel est le Pepsi. Ils ont tous voté en majorité Pepsi. Ils ont retiré le bandeau. Ils leur ont donné deux gobelets. Dans l'un Coca, l'autre Pepsi. Buvez. Quel est le meilleur? Le gobelet numéro 1. Le Pepsi. Oh, maintenant, écoutez bien. Troisième étape, ils leur ont posé deux canettes. Une Coca, une Pepsi. Buvez. Ils ont bu. 93% a dit le meilleur, c'est le Coca. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Allahu Akbar. Là, on vient de faire deux expériences. Quand ils ne savaient pas qui était Coca, qui était Pepsi, le goût a tranché, il a dit que c'était Pepsi. Et quand ils ont vu la canette, boum, c'est le Coca qui est meilleur alors que c'est toujours le même produit. Qu'est-ce qui s'est passé? Un truc de ouf. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la gravité? C'est-à-dire moi, Coca-Cola, j'ai la capacité, la possibilité d'appuyer sur un bouton dans ton cerveau, si bien que tu vas dire que c'est Coca qui est le meilleur, alors que ton goût, il est pour que ça soit Pepsi le meilleur. Même le goût, Mskin, il trahit le cerveau. Ou le cerveau, il trahit le goût. Qui c'est qui arnaque l'autre? C'est Coca. Ce sont les neuropsychologues qui, depuis des décennies, travaillent, certains, pour les industriels, pour faire quoi? Pour faire de nous des robots. Et ils ont dans la main une télécommande, et ils appuient sur le bouton, et tu vas manger ce que je veux, tu vas boire ce que je veux, tu vas t'habiller comme je veux. Vous entendez? Ça marche ou ça marche pas? Ça marche ou ça marche pas? Ça marche à 100 000%. Sinon, dites-moi, pourquoi ils mettent 1 million d'euros pour une pub? S'ils ont mis 1 million d'euros, c'est parce que ça va leur apporter 10 millions d'euros. La preuve, prenez un gosse. Emmenez-le dans une grande surface. Qu'est-ce qu'il va acheter, le gosse? Qu'est-ce qu'il va vouloir? Des produits et pas d'autres. Pourquoi il s'est arrêté sur celui-ci? Parce qu'on l'a travaillé. Quand il est sorti du ventre de sa mère, le gosse, la première image qu'il a vue, c'est quoi? C'est Coca. Quand il y avait 6 mois, sa mère, elle le mettait devant la télé. C'est pas ce qui fait du bruit, là, pour être tranquille. Elle lui ouvre la télé, elle le met dedans. Non, vous savez maintenant qu'est-ce qu'il y a? Il y a carrément des chaînes de télévision pour les bébés. Avec des musiques, avec des... Et le gosse, à 3 mois, toute la journée, il est devant la télé. Wallah, il y a quelqu'un qui m'a raconté qu'il a vu de ses propres yeux que la mère, quand elle veut donner à l'enfant, elle lui met, écoutez bien, un dessin animé. Et quand le dessin animé s'arrête, le gosse ne veut plus manger. Elle remet le dessin animé, il remange. Expérience. Qu'est-ce que je dis? Écoutez bien. Aux États-Unis, ils ont fait une expérience. Dans une école primaire, ils ont fait voir des films aux enfants de bagarre. L'autre bout de la ville, ils leur ont fait voir des films, bisounours, c'est cool, tranquille. Ils ont mis des caméras dans la cour de récréation. Tiens, c'est bizarre. Ceux-là, c'est la dabza, la bagarre, la haine, la violence, et les autres, ils s'amusent tranquillement, gentiment. Alors, ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle de la manipulation. C'est pour ça nos députés ont interdit toute étude de neuromarketing. Alors les traîtres, McDonald's, Carrefour, même la SNCF, ils vont les faire où leurs études? Juste en Belgique, parce qu'en Belgique c'est pas interdit. Ou en Angleterre. Écrivez. Vous rentrez ce soir, vous regardez une émission qui s'appelle Cash Investigation-Neuromarketing. vous allez tomber par terre. Vous allez voir comment on est manipulé. Comment nos jeunes ne peuvent plus maîtriser leurs instincts. Vous entendez? Parce que d'autres personnes ont pris le relais. Le jeune, il peut pas sortir s'il a pas mis des vêtements de marque. Il va à l'école, il revient, il fait scandale à son père et à sa mère. Je veux des baskets Nike. Pourquoi? Parce que tout le monde les a mises. Pourquoi les autres, ils les ont mises? Parce que certains ont décidé que tu devais les mettre. Vous entendez? Il n'y a pas de hasard. Tout est calculé dans notre société. Les films sont faits par des gens qui sont payés par les industriels. Il y a un objectif. On va faire ce film pour que les gens fument, boivent, dansent, chantent. Rentrer tapé, burné. Burné, trait, cigarette, États-Unis, psychanalyse, tapez, vous allez voir. C'est qui Burné? C'est le neveu de Sigmund Freud. Ça vous dit quelque chose, Sigmund Freud? Ouais. Le père de la psychanalyse? Ouais, c'est la bala, ouais, en arabe. L'arnaque du siècle. D'accord? Ouais, complexe d'Oedipe. Burné, c'est son neveu. Vous savez Burné? Il reçoit un coup de fil. Ce que je vous dis, c'est lui qui le raconte. Hein, c'est en anglais sous-titré. Il reçoit un coup de fil de qui? Philip Morris, Camel, Marlboro, les industriels du tabac. Et ils lui disent, Monsieur Burné, on a un petit problème. On vend du tabac, des cigarettes, mais il y a des gens qui ne fument pas. La moitié de la société américaine ne fume pas. Vous savez qui? Les femmes. Il n'y a que les hommes qui fument. Alors, on a une petite idée satanique. C'est moi qui le dis, hein, satanique. C'est comment faire pour que les femmes fument? On va doubler le chiffre d'affaires. Elles bénéficient. Ouais. Si on vend 50 millions de cigarettes, on va en vendre 100. Alors, on voudrait que les femmes fument. Mission 1. Impossible, ça ne va pas, non? Fini, impossible. Je vous l'ai dit, ils ont la capacité de toucher à ton cerveau reptilien, avec une odeur. Hein? Ils créent une odeur artificielle qui monte dans ton pif, qui va dans ton cerveau, qui le chatouille, et bizarrement, t'as envie de manger telle chose. Telle chose, hein? Pas autre chose. Hein? Wallah l'adim, c'est un truc de malade. Vous savez qu'est-ce qu'a fait Burné? Il est rentré chez lui. Il s'est assis puis il a réfléchi. Comment je vais faire pour que les femmes fument? Taratatan, j'ai trouvé. Pourquoi les femmes ne fument pas? Non, ce n'est pas la bonne question. Pourquoi les hommes fument? Ben, ils fument parce qu'ils sont forts. Non, ils fument parce qu'ils sont libres. Il n'y a personne pour leur interdire. Donc si la femme ne fume pas, c'est parce qu'elle est dominée par l'homme. Son mari va rentrer, il va lui mettre une droite si elle a une cigarette dans la bouche. Conclusion, la cigarette est synonyme de liberté d'indépendance de la femme. Si vous voulez que les femmes fument, on travaille la femme en lui disant « Mais t'es soumise à un mec qui fume, pourquoi l'égalité ?» Et le mec, il t'a fait un scénario satanique. Il a ramené des femmes, les journalistes, tout ce que tu veux, la presse. Et elles ont fumé en public. Elles ont dit, oui, nous sommes libres. Pourquoi les hommes fumeraient? On ne fumerait pas. Il est qui pour m'interdire? Pourquoi moi je l'interdis? Ça fait un scandale. Ça a duré 3 mois. 6 mois après, Burné reçoit un coup de fil. Viens ici. Camel, Marlboro, etc. C'est ce qu'ils lui ont dit? On atteint l'objectif. Tiens ton chèque. Et les femmes fument. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas bien fait, ça? C'est pas subtil? Bah, écoutez, la télévision, c'est le diable. Car
ils font passer tous les messages. Non, ils t'éduquent. Ils t'éduquent. La preuve, nos députés ont fait des lois pour interdire les publicités qui poussent les enfants à manger du sucre et du salé. Vrai ou faux? Tiens, tu parles du sel. Écoutez l'arnaque. Vous êtes prêts? L'arnaque du siècle. Il y a des médecins qui n'arrêtent pas de tirer la sonnette d'alarme. Au secours! Pourquoi? Ils disent que ton bébé, hein, il y a une semaine, 15 jours là, hein, nos femmes d'aujourd'hui, elles ne veulent pas allaiter. Hein. Ouais, c'est prise de tête, je veux rester une bonne fille. Donc tout de suite, biberon, le lait, ouais. Elle ne veut pas acheter des carottes et les éplucher. Oh, Berk, c'est sale. Elle achète quoi? Des... les pots, ouais. Micro-ondes. Tiens, attrape ça dans ta tronche. C'est ça? Ben écoutez, vous allez voir. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert que la teneur en sel dans la nourriture des bébés est 7 fois supérieure à la normale. C'est-à-dire la bouffe du bébé, ils t'ont mis, s'il doit avoir un gramme de sel, 7 grammes. Ben le bébé, il grandit avec quoi? Il est habitué à une teneur en sel. Ben, le mec qui vend du sel, au lieu de vendre une tonne, il vend 7 tonnes. Pas mal quand même, hein? C'est super hein, pour la santé. Le lait, même chose, c'est bourré de sucre. Ben, le bébé grandit et son goût a été trafiqué. Ouais, ok. Trafiqué, pas mal. Vous avez compris? Bon. Allons-y maintenant. Haya, quelles sont les tentations qui vous attendent, chers jeunes? Même les vieux, pas que les jeunes, mais 10 fois plus pour les jeunes. Écoutez bien. 1. La première des tentations, et c'est la plus terrible pour vous. Vous savez c'est quoi? Le sexe. Pour les garçons, les filles. Pour les filles, les garçons. Et bientôt pour les garçons, les garçons. Pour les filles, les filles. Ce qu'on est en train de préparer les gens. Vous entendez? Très bien. Comment est-ce que le diable et ses potes font pour que tu sois tenté? C'est simple. Ils ont déshabillé les gens. Et c'est ce que Dieu dit dans le Coran. Dieu dans le Coran dit que Shaitan, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Yanza'o. Quoi? Il leur enlève quoi? Libasahuma, leurs vêtements. L'objectif du diable, c'est que les gens perdent une qualité qui est propre à l'être humain, la pudeur. Un animal, il ne s'habille pas, un animal. Vous avez déjà vu un animal qui s'habille? Vous avez déjà un animal qui cache ses parties intimes? Non. Un animal n'a pas de pudeur. L'être humain, ce qui différencie l'animal, c'est qu'il a de la pudeur. Ah ben, l'objectif, c'est que tu deviennes un animal. T'as plus honte. Ouais. Toi-même, tu te déshabilles en public. Tu t'habilles peu. Mieux. Comment ils ont fait? Ben, depuis que tu es petit, tu regardes à la télé, dans les magazines, des gens qui sont à moitié nus ou nus. Et c'est devenu pour toi naturel, normal, ça ne te choque pas. Vrai ou faux? Très bien. Quand tu as 5 ans, 8 ans, 12 ans, ok? Mais dès que la pulsion sexuelle est là, tu pètes les plombs. Ah, t'as faim, tu veux manger? Eh oui. Et regardez le résultat. Il y a des nos jeunes. Rahoufiha. Vous savez que maintenant, où je vous parle en ce moment, j'ai reçu un coup de téléphone en début de semaine. Astaghfirullah, on est quoi? Mercredi après-midi, je l'ai reçu. Il y a un frère qui me dit, je voudrais que tu m'aides, je suis en train de gérer un problème dans une famille. Un frère qui divorce de sa femme, je crois qu'il y a 3 gosses, il y a une fille qui a 10 ans, la mère, elle est rentrée dans la chambre, elle a trouvé sa fille dans le lit avec son cousin en train de copuler.
Vous avez entendu? Vous savez pourquoi? Parce que les gosses aujourd'hui voient ce qu'un être humain, il y a 40 ans, n'aurait jamais pu s'imaginer voir. À cause de quoi? Non. Non, pas la télé, Internet. Il y a pire que la télé. Quoique c'est vrai que la télé maintenant est 400 chaînes, 500 chaînes. Mais Internet, Internet. Le gosse, il y a 10 ans, il y a un portable, il y a Internet sur le portable. Et même s'il n'a pas de portable, il va à l'école, son copain a un portable. Vrai ou faux? Et à la récréation, au lieu de jouer au foot, nous à la récréation, on joue aux billes. Hein. Il fut un temps. Ouais, on joue aux billes. Maintenant, le gosse, au collège, il ne joue pas aux billes. Au collège, il sort son iPhone, le 4e, le 15e, et il montre à l'autre une catastrophe. Alors, vous savez, c'est quoi la solution? Vous êtes prêts? Elle est coranique. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Baissez votre regard. Ne regardez pas. Parce que tout commence par le regard. Tu regardes, t'es tenté. Et vous, parents, faites gaffe à la maison. Hein. Ne laissez pas la télévision allumée. Et ne laissez pas vos enfants allumer la télévision. Comment? Vous êtes capable de donner à votre gosse un flingue avec des balles dedans? Vous êtes capable de donner à votre gosse un couteau tranchant? Ou là, vous êtes capable de donner un briquet à votre enfant et des allumettes? Il va mettre le feu, il va se tuer, il va se blesser. La pire des choses que l'on fait, c'est qu'on laisse nos enfants devant une bombe à retardement qui s'appelle la télé, qui l'agresse avec des images en permanence qui s'inscrivent dans son inconscient, subconscient, si bien que le gosse, il grandit et c'est comme ça. Vous entendez? C'est grave et c'est terrible. Et aujourd'hui, c'est à la mode. Hein? Chaque gosse, il a une télé dans sa chambre, c'est ça? Comme ça, les parents, ils peuvent tranquillement regarder. A'oudou billah. A'oudou billah. Non, la mode, c'est chaque gosse, il a son PC maintenant. Son portable. Puis avec la Wi-Fi, là où il est branché avec Shaitan. Et même si toi, tu n'as pas la maison, il se branche sur son voisin. C'est ça? Il regarde quoi, ton avis? Il fait quoi sur Internet? Des maths? De la physique? Comment veux-tu que ton gosse, à l'âge de 10 ans, il soit pas tenté? On l'a excité, on lui a tout fait voir, on lui a tout fait montrer. C'est une catastrophe, wallah al-adim. Alors, les jeunes, c'est ce que vous faites? Vous faites attention à... Ne regardez pas ce qui va déclencher en vous des pulsions que vous n'arriverez pas à maîtriser. Baisse ton regard. Le premier regard passe, le deuxième, il est dangereux. Deuxièmement, vous savez quoi? Attention à la parole. Pourquoi vous passez votre temps à parler avec les filles ou les filles avec les garçons? À chatter. C'est ça? Hein? T'as un blog, j'ai un blog. Ouais. On parle, on discute. Ouais. Oh, tu trouves du plaisir, hein? Ah ouais, à parler avec elle. C'est bizarre, ça. Oh, on dit rien de mal. Mon œil, tu dis rien de mal. Mon œil, tu dis rien de mal. Si tu le fais, c'est parce que tu y trouves du plaisir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne te retrouve jamais seul avec une femme, même si tu dois lui enseigner le... Waouh, le Coran. Attends, on ne dit pas de mal, c'est le Coran. C'est puissant quand même. Hein? Et au passage, hein, tu sais, quand tu chattes sur Internet avec la fille, bien, tu es seul avec elle. Hein? Ben oui que tu es seul avec elle. Tu es seul avec elle. Non, on croit être seul avec elle, c'est... être seul avec elle physiquement dans une pièce. Non, non, non. Virtuellement, tu es aussi seul avec elle.
Les portables. Vous prenez le portable des jeunes aujourd'hui, il y a plus. Si c'est un garçon, les téléphones des meufs sont plus nombreux que ceux des garçons. Je savais pas que tu avais autant de sœurs. Agib. C'est quoi tout ça? C'est quoi toutes ces filles? Vous êtes en danger. Et vous savez, ceux qui sont derrière ne veulent pas votre bien. Ils ne veulent pas votre bien. Et tout est business et économique, hein, vous le savez. En plus de satanique, ouais. Les shaitans, son objectif, c'est de te faire, de te pousser à désobéir à Dieu. C'est ça. Mais il fait d'une pierre deux coups. Il y en a, ils se font du fric. Parce que nos jeunes aujourd'hui, regardez l'impact financier et économique de cette morale satanique. C'est quoi l'impact? Le jeune, avant de sortir, une demi-heure devant le miroir. Ouais. Et 3 kilos de gel. Ouais. Et le poil, il doit être bien debout à l'endroit qu'il faut. Et il sort pas s'il n'est pas droit. Si jamais il tombe, il fait demi-tour. Vous savez pourquoi? Parce que il doit plaire. Et tout son objectif, tous les jours, c'est quoi? C'est comment plaire à qui? Et il tue son temps. Il va, il traîne dans les rues. Hein? Il va à Carrefour au champ. Ah, il fait des courses. Ça va pas. Allah, sa mère, elle lui dit, ramène-moi un litre de lait. Il lui fait scandale. Il la traite. Il le ramène pas. Par contre, il est prêt à passer 4 heures. Ouais. Et à faire les 100 pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un pan. Ouh, regardez-moi. Je suis beau. Tu demandes à qui de te regarder? À qui tu demandes? T'appelles ça des femmes? Vous savez, c'est quoi le propre d'une femme? C'est la pudeur. Omar ibn al-Khattab a dit, la pudeur, c'est quelque chose de beau. Mais c'est encore plus beau quand c'est le propre d'une femme. Ah bon? Cette fille-là, tu veux te marier avec elle? Je te plains. Vous cherchez quoi? Ne traînez pas dans les endroits où vous allez être excité par des scènes, des images. Pire, vous y allez, regardez ce qu'ils font. Ils vous mettent de la musique, l'ambiance. C'est ça? Les lumières. Tout est calculé. Pour ça, le Coran dit, attention, shaitan ajlib. Attire-les avec sautik, avec ta voix. Oui, il y a de la musique qui a pour objectif de quoi? De t'attirer dans le haram. Et c'est vrai. Attends, le jeune toute la journée avec son casque, il écoute quoi? Il écoute quelque chose qui le met en mouvement, hein? L'ambiance. Et croyez pas qu'ils font ça parce qu'ils vous aiment bien. Wallah, ils font tout ça pour avoir votre porte-monnaie. Et Shaitan, il fait ça pour avoir votre âme. Il y en a un qui veut votre corps et l'autre, il veut votre âme. Donc, le premier des dangers, c'est ça. C'est la nudité, le sexe, les rapports sans limite entre garçons et filles. Soyez sérieux, éloignez-vous. Si vous devez avoir un contact, il doit être limité dans le temps, dans l'espace, etc., etc. Et bossez. Comme ça, vous allez vous marier jeune. Vous entendez? Travaillez. Soyez sérieux maintenant, là. Comme ça, quand vous aurez 20 ans, 22 ans, 23 ans, vous vous mariez. L'idéal, c'est que vous vous mariez à 18 ans. Et malheureusement, notre société, elle nous pousse à nous marier à 30 ans. À 35 ans. Comme ça, tu as le temps de t'éclater. Ouais, pendant 10 ans, pendant 15 ans, à faire du haram. Deuxième danger. Vous savez, c'est quoi? Les vêtements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ta'isa abdo al-qatifa. Il sera malheureux, celui qui adore les vêtements. Et c'est une tentation et c'est une arnaque. Parce que c'est dans la nature de l'homme.
d'être beau, de chercher à être beau. Vous entendez? C'est naturel.
Ouais.
Mais Satan entre par toutes ces choses qui sont naturelles. Assouvir le plaisir sexuel, c'est naturel. Dieu nous a créé comme ça. Walakin, il faut le faire dans les règles de l'art islamique, via le lien du mariage. Même chose, les vêtements. C'est bien. C'est même obligatoire de s'habiller. Et c'est bien de bien s'habiller. Mais faites attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, habille-toi comme tu veux, tant que c'est halal. À condition. Vous entendez? Habille-toi comme tu veux, tant que c'est halal. À condition que quoi? Que le vêtement ne déclenche pas en toi l'orgueil. El makhila, el khuyala. Si? La vanité, la grosse tête. Et avant, les Arabes, vous savez comment ils faisaient pour crâner? Pour se pavaner? Comment ils faisaient? Ils mettaient des vêtements qui étaient longs, qui traînaient. Comme la reine d'Angleterre. Elle met une robe qui fait 4 mètres. Et t'as 4 personnes qui la tiennent. Oui, les aristos avant, c'était ça. Tu étalais ta richesse et ton rang en étalant tes vêtements. Aujourd'hui, vous savez, c'est quoi? Comment les jeunes... C'est le crocodile. Ouais. La panthère. Ouais. La virgule. Et le point d'exclamation. C'est ça que les jeunes adorent aujourd'hui. Un grand saint, il s'appelle Ahmed ibn Ajiba, radiallahu anhu. Un grand maître soufi du 13e siècle, du Maghreb. C'était le savant numéro un de son époque et de sa région. Trop fort, trop puissant, hein. Et il a attrapé la grosse tête. C'est ça? Je suis le plus savant des savants. Tout le monde lui baise la main. Et tout ce qu'il faisait, il ne le faisait pas pour plaire à Dieu, mais pour plaire aux gens. Et un jour, il y a eu une crise. Hein, il s'est remis en question. Comme l'imam al-Ghazali et d'autres. Et il a décidé, vous savez quoi? De tout laisser tomber et de chercher la voie qui mène à Dieu, c'est-à-dire la sincérité et le zohd, le renoncement. Parce que attention, le mec était millionnaire, hein. Ah, tout le monde lui ramène. Et vous savez où il est allé? Il est allé dans un coin perdu à la recherche d'un maître spirituel qui craint Dieu. Et quand il l'a trouvé, il a dit, me voilà devant toi, fais de moi ce que tu veux afin que je sois un serviteur de Dieu et non pas un serviteur du diable et de mon nefs. C'est ce que lui a dit le maître. Il lui a dit, il y a une condition. Jure que tu vas obéir. Il a dit, oh, pas de problème, j'obéis. Il lui a dit, non, jure que tu vas obéir. Béa, engage-toi. Il lui a dit, ok. Dès qu'il a donné sa parole, c'est ce qu'il lui a fait. La première des choses qu'il lui a faites. Vous savez quoi? Il lui a dit, bon, tu vas sortir maintenant de la mosquée. Tu vas là-bas, tu tournes à droite, à gauche. Il y a un homme sous un arbre, c'est un SDF, ouais, c'est ça, un clochard. Tu vas lui donner tes vêtements et tu vas mettre ses vêtements. Voilà, il va commencer à l'éduquer. Qu'est-ce qu'il va lui faire faire? Il va tuer son nefs. Ouais. Tu vas t'habiller de haillons. La grosse tête que tu as, je vais la rétrécir, moi, ta tête. Je vais la dégonfler. Tu vas t'habiller et tu vas arrêter d'adorer les vêtements. Ça a été dur, hein. Il a dit, je l'ai fait, j'ai souffert. J'étais pas bien, j'avais honte. Monsieur, il a l'habitude de porter du... Hein. Et après quelques mois, quand le maître il a vu que... Ah, c'est bien. Maintenant, deuxième étape, c'est ce qu'il lui a dit. Il dit, maintenant, tous les vendredis, tu vas aller dans telle ville. Vous savez laquelle de ville? La ville où il était le plus connu. Et tu vas te mettre à la sortie de la mosquée, tu vas tendre la main, tu vas demander l'aumône. Il a dit, cheikh, non, ça c'est war, ça. Non, ça, là.
Attends, la honte, je suis réputé, je vais passer à la télé, oh, tout le monde va se moquer de moi. Il a dit, t'as juré, allez hop. Il a dit, ça l'a tué. À la sortie, il fait ça. Ah, Cheikh Ahmed ibn Ajiba. Et tout le monde va le taxer de mahboul, de fou. C'est tout, il a pété les plombs, regardez. C'est devenu un clochard qui tend la main. Vous voyez comment il le tue? Et ainsi de suite, il va lui faire faire 50 000 choses que l'être humain n'aime pas pour qu'il devienne modeste. Parce que si tu veux grimper là-haut au paradis, tu as intérêt de descendre ici. Vous avez compris? Rabaisse-toi, Dieu t'élèvera. Tue ton nefs. C'est quoi ça? Si j'ai pas une veste Lacoste, je m'habille pas. En al boule crocodile. Mais c'est qui le crocodile pour que je l'adore? En plus, avec sa gueule et ses dents, mais il fait que bouffer mon argent. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Wallah, ils nous ont arnaqués. Wallah, l'adim, ils nous ont arnaqués. C'est quoi la mode? Dites-moi, qu'est-ce que c'est que la mode? C'est ce que c'est? C'est des gens assis autour d'une table. Bon, alors, on leur fait quoi pour l'été prochain? Attention, hein, la mode de juin, elle est déjà finie. Décidée, hein. Décidé par qui? Par qui? Croyez qu'il y a un ange qui descend du ciel et qui nous veut du bien? Décidé par des gens qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de faire de toi un esclave. Il va t'habiller comme il veut, au prix qu'il veut. Et il va te déshabiller comme il veut, au prix qu'il veut. Attends, je suis libre quand même. Imagine-toi si maintenant je t'attrape, je te dis viens ici. Enlève ça, mets ça. Mais t'es qui toi? Même mon père il me dit pas ça. Tu fais ça sinon je te descends. Mais t'es qui? Tu crois que je vais me laisser faire? Et en plus t'as vu ce que tu me demandes de mettre? Mais c'est pourri là tes vêtements, ils sont nuls. Wallah l'adim, c'est la même chose. Ils décident autour d'une table de la mode de l'été prochain. Bon, la couleur pour 2013, ça sera le violet. Regarde, ils rigolent. Tu rigoles maintenant, tu sais pourquoi tu rigoles? Parce qu'ils n'ont pas encore fait la pub pour le violet. Le violet n'a pas encore été porté par des artistes, par des présentateurs de télévision, par des jeunes dans des séries de télé-réalité. Ouais. Secret story. Ouais. Pourquoi? Vous croyez qu'ils s'habillent comme ils veulent? Tu vas mettre ça. Et bizarrement ça, 3 mois après, tu le retrouves. Moi, ma nièce, quand elle tenait le magasin de ses parents, vous savez ce qu'elle me disait? Les femmes, elles venaient acheter. Vous n'aurez pas tel vêtement? Bah, elle cherche. Pourquoi? Bah, je l'ai vu hier. Il était porté par à la télé par une telle. Regardez, tu mets à la télé, elle le lendemain, au magasin, ils viennent chercher. C'est grave, wallah, c'est grave que quelqu'un décide à ma place comment je dois m'habiller. Franchement, c'est pas une honte? T'es pas un esclave? Wallah, t'es un esclave puissance 1000. T'en es même pas conscient. Je t'habille, je te déshabille. Les clés slim. Slim. C'est à la mode. Pantalon moulant une fois. Une autre fois, ils sont larges. Moi, je me souviens, dans les années 75, c'était quoi la mode? Pas d'éléphant. Tu sais, le pantalon à bas, là, tu pouvais mettre 4 gosses, tu sais, en dessous. Tu pouvais les cacher. Et le pire, c'est pas ça, c'est que le pantalon, il remontait jusque en dessous des côtes. Vous avez connu ça, les anciens? C'est pas d'arca, ça. Mais c'était ça, la mode. Celui qui t'habillait comme ça, John Travolta. Saturday Night. Je me souviens une fois, j'étais dans la ville d'Arras. Je faisais une conférence, c'était des jeunes, des adolescents de 14-15 ans. Puis je leur expliquais les dangers de la société. Puis à un moment donné, je leur dis, regardez, moi quand j'étais jeune, on jouait au foot à la récréation, à l'école. C'est du goudron. Tu te fais tacler, ouais. Tu tombes. Donc les genoux, le pantalon, il prend un coup, il y a un trou. Tu rentres à la maison déjà, une droite. Ouais, t'as arraché ton pantalon. C'est bien. Deuxième étape, le soir tu l'enlèves et maman elle prend une pièce bleue, rouge, verte et elle la colle au truc. Et le lendemain tu repars à l'école avec une rustine. Et d'arca, tout le monde se moque de toi. Vrai ou faux? Ça t'apprendra. Aujourd'hui, le mec qui va au magasin, il achète un pantalon qui est déjà troué. Il est troué, le jean est arraché, il est troué. Il n'est pas troué au genou. Parce que, islamiquement parlant, le genou, est-ce qu'il fait partie de l'aura ou non? Non, il est troué là, la fesse, là, là. Là, on est sûr que c'est haram, là. Et les jeunes musulmans s'habillent comme ça. Normalement, un jean troué, tu fais quoi? Un pantalon troué, tu fais quoi? Tu le tèges. Pire, vous savez quoi? Je me souviens quand on était gosse, on avait peur d'une chose. Tu sais de quoi on avait peur? On avait peur de la machine à laver. Imagine-toi, ta mère, elle a mis plus de javel qu'il faut. Et le pantalon, il sort avec une tache. La honte le lendemain à l'école. Ton pantalon, il y a une tache. C'est de javel, ça a blanchi. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Il va au magasin, il achète un jean délavé. C'est ça? On lui a mis du javel. Regardez, c'est pas ça le plus pire. Le pire, pardon. C'est quoi? Je raconte. Je dis, j'ai vu de mes propres yeux un mec mettre un jean à l'envers. C'est le pantalon à l'envers. Vous voyez comment? Le bouton, la derrière. Puis je raconte ça. J'ai regardé comme c'est grave. Le mec qui met son jean à l'envers. Allez, le jean, t'as deux poches derrière. Mais les deux poches se retrouvent devant. Vous voyez le... Pas à l'envers. Vous me suivez? Je raconte ça, et ils attrapent une barre, ils rigolent. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont tous fait ça. Ils ont balancé l'un d'entre eux qui était assis avec son jean à l'envers. La preuve que j'étais un peu déconnecté de la réalité. La mode, elle était déjà arrivée dans le nord de la France. Parce que ça commence aux États-Unis, Paris, après le nord. Mais dites-moi franchement, c'est pas du foutage de gueule ça? Mais tout ça, c'est pensé et réfléchi. Tu portes un vêtement 3 mois, après il dit c'est plus à la mode. Mais il y a encore bon. Non, non, c'est pas à la mode. C'est quoi ça, c'est pas à la mode? A'oudou billah. Et on se fait arnaquer, hein. Janvier, les soldes. Juin, les soldes. Soldes d'hiver, soldes d'été. Et le mec, il est content. J'ai fait une super affaire. J'en ai acheté un, le deuxième était gratuit. Il est content, hein. Ah si, il est content. J'ai fait une bonne affaire. J'ai acheté une paire de baskets à 70% de rabais, de soldes. Il ne se pose pas la question, est-ce qu'il avait besoin de la paire de baskets? Vous comprenez? C'est-à-dire, normalement, quand tu achètes quelque chose, c'est parce que tu en as besoin, c'est ça? Non, il y a 14 paires de baskets chez lui, il en achète une autre, vous savez pourquoi il l'achète? C'est parce qu'elle est à 50%. Mais tu n'as pas remarqué qu'on t'a pris ton argent? Tu n'as pas remarqué que tu t'es fait arnaquer? Non, tu ne peux pas remarquer, tu sais pourquoi? Parce que ton cerveau est en mode pause. Et ils ont tapé le code et t'ont mis en mode pause et tu réagis en fonction de quoi? Des coups de jus qu'ils te mettent, du 280 volts, du 380. Ouais? Ils te font une pub, tu cours. Ils te mettent un film, un secret story, tu cours. Attends, tu vas où toi? Allahu Akbar. Donc, le sexe, les vêtements, c'est ça? Troisième danger pour nos jeunes. Vous savez, c'est quoi? C'est à la mode en ce moment. C'est les jeux de hasard. Avant, nos parents, c'était le tiercé. Ouais. Au moins, ils avaient une petite culture hippique. Tu sais, ils savaient ce que c'était qu'un cheval. Ouais. Maintenant, ils font quoi, nos jeunes? Nos jeunes, ils jouent au foot avec un portable. Ils parient. Ah oui, samedi soir. Va les trouver les jeunes, ils sont où? Ils sont devant les écrans et parient sur les matchs de foot. Qui va gagner? 2-0, 1-0, je parie 30 euros, 50 euros. Pire, je parie, qui c'est qui va mettre le but? Combien de corners il va y avoir dans le match? Des paris bêtes, stupides, parce que à la rigueur, tu paries qui va gagner, qui va perdre. Entre nous, ok? C'est haram, hein? On est d'accord, hein? Mais attendez, le mec, il parie combien de coups francs il va y avoir? Combien de cartons jaunes il va y avoir? C'est pas du foutage de gueule? Dites-moi. Vous savez que c'était interdit en France, hein? En France, c'était interdit. Mais comme c'était pas interdit en Angleterre avec Internet, bah qu'est-ce qu'ils faisaient les jeunes? Bah ils pariaient via eux. Ah bah nos députés, ils ont dit, écoutez, les gens ils jouent, autant qu'ils jouent, et, on mange. Ça s'appelle la française des... Oh, elle est belle celle-là. Vous la connaissez la française des jeux, non? Ça vous dit rien? Ils ont fait 13 milliards de bénéfices. Ouh! 13 milliards de bénéfices. Joue. Madame la cigale rira bien, qui rira le dernier. Haram, vous entendez? Si tu veux jouer au foot, tu mets tes baskets, tu vas sur le terrain et tu fais du sport. Mais tu n'adores en aucun cas les joueurs de foot, le maillot. Allah, c'est triste de voir la culture de nos jeunes aujourd'hui. À 12, 13, 15, 18 ans, il connaît par cœur tel joueur de foot. Il est né quand? Il est mort quand? Non, il n'est pas encore mort. Combien il gagne? Il y a combien d'enfants? Non, ils n'ont pas d'enfants, pardon. Mais c'est incroyable. Et tu lui poses des questions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est censé nous guider, nous mettre au paradis, rien du tout. Voilà. Mais par contre, les tentations. Il y en a beaucoup. Le sexe, les vêtements, les jeux de hasard, les voitures. Ouais. Oh, t'as vu la voiture? Oh, elle est super! T'as vu l'autre, il a... Le jeune, il rêve que d'une chose, c'est 18 ans. Vous savez pourquoi? Pour le permis. Parce que le permis, c'est la porte qui s'ouvre sur un monde extraordinaire. C'est quoi? Une voiture. Pourquoi une voiture? C'est pourquoi? Pour prendre les copains et les copines. Mais oui, je suis devenu un homme. Nous, avant, dans les années 80, c'était « je fume ». Je suis un homme, tu sais, je fume. Les sixièmes, ils n'avaient pas le droit de fumer. C'est les quatrièmes qui ont le droit de fumer. Et toi, tu te bats pour être en quatrième. Pas pour réussir à l'école, hein, pour fumer. Ben aujourd'hui, les jeunes, c'est comment je fais pour avoir une voiture le plus tôt possible pour me pavaner devant mes copains. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « il y a trois types de chevaux ». Un cheval qui te mène en enfer direct. Un cheval qui te mène au paradis. Puis un cheval, ça dépend de ce que tu auras comme intention. La voiture qui te mène au paradis, c'est celle que tu utilises pour faire le bien. Tu utilises pour toi-même. La voiture qui te mène en enfer, c'est celle que tu utilises pour crâner, pour te montrer. Ouais, pour prendre des gens et les emmener faire des choses haram. Et la voiture au milieu, c'est celle que tu utilises tous les jours pour travailler en fonction de ton intention. Si tu as une bonne intention, elle t'aidera pour le paradis, sinon elle ne te servira à rien là-haut. C'est grave quand même. Les jeunes adorent les voitures. Ils connaissent toutes les marques de voitures. Ils n'achètent pas une voiture parce qu'elle ne consomme pas, elle est écologique, ou il y en a besoin. Non, tout ce qui l'intéresse, c'est... Et vous n'avez pas vu la catastrophe? quand les Arabes se marient maintenant? Est-ce que vous êtes au courant de la gravité? Le mec qui loue des voitures, limousine, Chevrolet, je ne connais pas très bien, tu sais, des noms bizarres j'ai entendu. Attends, la voiture elle coûte 50, 60 000 euros, hein, et le mec il la loue. C'est ce qu'il faut. Ils bloquent les autoroutes et le périphérique maintenant. Là, ils l'ont fait, là, à Lille. Ils ont bloqué l'autoroute. Tu sais, les trois voies, Lille, ils ont mis les trois limousines. Puis les gens derrière, bah, bougent toujours. Allez, ils sortent des fenêtres avec des caméras, les filles, les garçons. Pire, il y a des frères qui m'ont dit, même les meufs en hijab, elle assise sur la porte avec une caméra. Je dis, Aoudou billah, pitié. Mais la gravité, c'est grave, Allah, c'est grave dans quoi sont tombés nos jeunes. C'est très grave. Il ne manque plus que le carrosse. Non? Et les chevaux? Non, ça existe déjà. Vous entendez? Non, c'est ce qui manque, l'éléphant. Ouais. Vous allez voir, un jour ou l'autre, il y a un mec qui va leur ramener un éléphant. Hein. À l'indienne. Un indien dans la ville. Un indien, une indienne dans la ville. Il y a d'autres tentations, mais on ne va pas toutes les citer parce que les aiguilles de la montre sont sans pitié. Pour finir, on va finir avec un verset du Coran. Vous vous souvenez, on a commencé avec le verset qui dit les jeux de hasard et l'alcool, il y a du bien et du mal. La raison n'est pas suffisante. Il nous faut quoi? Il nous faut la foi. C'est-à-dire la peur de Dieu. Le paradis doit être à notre présent, notre esprit. L'enfer. Ouais. C'est ça qui va te freiner. Ouais, c'est celui qui boit de l'alcool sur terre n'en boira pas au paradis, même s'il y va. Celui qui porte de la soie sur terre n'en portera pas au paradis, même s'il y va. Ouais. Celui qui fornique sera en enfer, dans un four, et le feu le consumera, et remontera jusqu'à l'extérieur, et ensuite il retombera. Toutes les punitions qui attendent les gens et les récompenses au paradis et en enfer, on doit se les rappeler en permanence pour qu'elles servent d'épée de Damoclès. Ouais. Et la foi, il faut l'entretenir. Et vous savez, la plus belle des choses pour garder la foi, c'est le zikr. Ouais. C'est Dieu qui le dit dans le Coran. وَمَنْ يَعَشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ. Celui qui oublie Dieu, qui ne se rappelle pas Dieu, qui n'évoque pas Dieu, il aura un diable qui va lui coller à la peau en permanence. Pour le quoi? Le faire tomber, le plier devant les tentations. Ouais. Donc le zikr est fondamental. Et c'est vrai, hein. Le prophète Aïssel m'a dit, celui qui évoque Dieu, le diable fuit. Ouais. Celui qui pense à Dieu en permanence, ben, dans son cœur, il n'y a plus de place pour Shaitan et les tentations du diable. Remplis ton cœur d'amour de Dieu et évoque-le en permanence. C'est un bouclier, le zikr. Hisnun hasin, une citadelle dans laquelle tu te refuges. L'imam Ibn al-Qayyim, il a donné un bon exemple. Il a dit l'exemple de Shaitan et de toi, c'est l'exemple d'un homme qui passe devant un chien, pitbull. Et le chien, il fait quoi, à votre avis? Il essaie de te mordre. Vous savez ce que fait cet homme? Il se bat avec le chien pour le repousser. Mais impossible, le chien est trop fort. Et puis à chaque fois qu'il passe, le chien l'attaque. Il se fatigue et il est en danger. Et il va y laisser des plumes. Il se trompe. C'est pas ça la solution. La solution, c'est qu'il contacte le maître du chien pour que le maître retire son chien. Tout simplement. Vous savez c'est qui le chien? C'est Iblis, Shaitan. Donc branche-toi sur Dieu. fais ton zikr. Astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Et tu vas voir que dans ton cœur, il n'y aura plus de place pour les tentations. Parce que ton cœur est rempli. C'est une question de vase communicant. Vous entendez? Il y a un verset dans la sourate Taha qui est puissant. C'est ce qu'il dit. Il dit, et c'est une solution contre les tentations. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَاهُمْ بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Il est puissant le verset. C'est ce qu'il veut dire. Il veut dire, ne jette pas ton regard sur ces belles choses, les tentations. Parce que ce sont des jouissances temporaires, des arnaques. Pense à la récompense divine. Et tu verras que toutes ces choses, quand tu vas les voir, mais c'est nul. Mais qu'est-ce que j'en ai ciré de tes baskets Nike? Ça ne me fait rien, moi. Je suis au-dessus de la mêlée. Tu regardes les choses d'en haut. Je conclue avec une histoire qui est puissante. Celle de Utba ibn Aban al-Ghulam. Radiallahu anhu. Il a dit, Ya Allah, je veux trois choses. Ya Allah, donne-moi une belle voix quand je lis le Coran. Fasse que quand je vois une femme, c'est comme si je vois un poteau électrique. Ça ne me fait rien. Et fasse que je sois martyr. On l'appelle Utba el-Ghulam. Utba, l'enfant. C'est pourquoi on l'appelle un enfant? C'était pas un enfant, c'était un homme. Parce qu'il pleurait comme un gosse. Tellement il avait peur de Dieu, il pleurait souvent. Et un jour, Abdelwahid ibn Zayd, son maître, qui était à la mosquée, puis il parlait de la concentration, de celui qui craint Dieu. Puis il y a quelqu'un qui lui dit, maître, ça existe encore des gens qui craignent Dieu comme ça? Il lui dit, oui, il y en a un et il va bientôt venir. Et quand Utba est arrivé, Abdelwahid ibn Zayd leur a dit, c'est lui. Et je vais vous le prouver. Il dit à Utba, t'as croisé qui sur ta route quand t'es venu? Il lui dit, maître, il n'y avait personne, les rues étaient vides. Et c'était un jour de marché à Bagdad et il est venu de l'autre côté de la ville. Il n'y a vu personne. Le vide, il a fait le... Il était ailleurs, il avait des œillères. Vous entendez? Quand je vois un poteau, c'est comme si je vois une femme. Et il reste une... Allah m'a donné cette voix. Quand il récitait le Coran, il faisait pleurer tout le monde, il pleurait lui-même. Les femmes ne l'attiraient pas. Et la troisième, vous savez ce qu'il a dit? J'espère qu'Allah va me donner la troisième. Et il est mort au combat en Arménie. Vous avez compris les jeunes?
Oui.
Baissez votre regard. Ouais. Concentrez-vous sur l'essentiel. Sinon vous êtes mort. Le crocodile, il va vous bouffer. Wallah alam, alhamdulillah, rabbil alam. Qu'Allah nous protège. Et protège nos enfants parce que Allah, c'est très dur. Ouais. C'est très, 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 très dur. C'est pas évident. C'est pas évident du tout, du tout. Très bien. Vous avez rien à dire? Vous n'avez pas de critiques, vous n'avez pas de remarques, ni de questions? Ça m'arrange. Comme ça, on va se séparer. Du moins, je vais m'en aller. Vous restez. Moi, j'ai de la route. Demain, je dois aller ailleurs, Inch'Allah. Qu'Allah vous protège et vous préserve. Vous êtes les meilleurs, walillahi alhamd, parce que au lieu d'être devant la télé ou sur Internet à regarder et à communiquer dans des choses haram, vous êtes dans la maison de Dieu à prendre votre religion et à l'adorer. Ça, c'est la preuve que Dieu vous aime bien et vous veut du bien. Alors ne crachez pas dans la soupe. Vous avez entendu? Ne mettez pas les pieds sur la table. Restez comme ça.
Car Wallah ne connaît la valeur de cette religion que celui qui est au courant de ce que les gens qui sont loin de la religion vivent. Hein? Ils vivent l'enfer, les gens. Vous entendez? Wallah, ils vivent l'enfer. On doit dire Alhamdulillah des millions de fois par jour. Vous entendez? Wallahi barak, Allah yahfoudkoum. Wallahu a'lam wa alhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين